sur RFI.
10 ans de Radio Foot.
C'est amazing, comme disent les Anglais.
Mais est-on vraiment sérieux quand on a 10 ans ?
J'ai 10 ans.
Le foot ne s'arrête jamais, Radio Foot non plus.
Bon anniversaire, Radio Foot.
Génération Radio Foot International.
Déjà 10 ans que nous vivons la passion du foot à travers la radio mondiale.
Ont des torts partagés. Rennes malchanceux à Chelsea, l'arbitrage malgré la VAR a favorisé les Blues alors que les Bretons n'ont pas démérité. Est-ce la double peine pour les petits nouveaux ? La malchance des débutants quoi. Nous ferons en tout cas le bilan de cette phase de poule qui en est déjà à mi-parcours. Et puis nous évoquerons une autre Ligue des...
Mon préféré, peut-être quand il avait 10 ans en fait.
Ouais, hein, un de nos plus fidèles camarades ici autour de cette table. Et puis plus doyen encore que Dominique. Oh non, je crois qu'en même temps vous êtes arrivé à
2011.
Peu près. Ben voilà, c'est
match.
Franck Simon, notre ami de France Football.
Ensemble.
Bonjour Franck.
Oui,
bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors justement pour ces 10 ans, eh bien, je vous propose un salut très particulier pour commencer l'émission.
Skill as well. El Hadji Diouf scores for Bolton Wanderers.
Salam alaikum. Vous êtes bien avec El Hadji Diouf, l'international sénégalais. J'aimerais bien souhaiter joyeux anniversaire à Radio Foot International.
Le maillot du Sénégal, lui aussi nous écoute, lui aussi nous encourage, de temps en temps il prend la parole même dans l'émission. Alors après Sadio Mané, après Didier Drogba, après Joseph Antoine Bell, merci beaucoup El Hadji Diouf de nous avoir souhaité notre anniversaire. Les amis, c'est quoi votre allez, un souvenir avec Radio Foot, Dominique Sévrac.
Avec elle.
Mais on parlait déjà de Ligue 1.
Non, mais moi, les souvenirs, c'est, les rencontres qu'on a eues. On a évoqué en antenne Manu Dibango, qui est venu dans l'émission.
Pour ses 80 ans.
Carlos Bianchi, qui est extraordinaire. De revoir Philippe, que j'ai croisé sur les terrains avant. Et c'est pas pareil que de l'échanger à la radio. C'est Habib Bey aussi, qu'on voit sous un jour différent, parce qu'il a été joueur.
Public, c'était au siège de la Fédération Mauritanienne.
Il y avait
Shot, il y avait le public qui était autour de nous, il y avait des dirigeants, et puis on a fait je crois deux émissions d'ailleurs,
oui,
hein, oui, avec, oui, Guillaume Ploquin.
Exactement.
Et donc on avait eu Didier Drogba, c'était pour évoquer déjà les soucis du football ivoirien et cette crise.
Pareil pour la convivialité, le Gabon, la CAN au Gabon en 2017, où on se retrouvait dans votre studio improvisé, enfin improvisé
très
pendant
studio.
Un mois quand même, mais
installé par Denis Chastel.
Et où on savait continuer les moments en allant ensuite prendre un pot, un thé, bien sûr, un thé.
Où ça, où ça, des adresses
sur la plage.
Ah ouais,
complètement,
ah ouais.
Sur la plage en face. Non,
oui, il y avait le fameux restaurant La Cantina,
absolument,
n'est-ce pas, avec un K là.
Absolument. Donc ça, c'est un moment. Et puis j'ajouterais quand même le jour où j'ai reçu en plein match, commenté pour Canal Plus Afrique, un match, je ne sais plus lequel. Et en plein match, j'ai reçu un texto d'Annie me disant « On t'écoute au Sud Kivu ».
Qui jouait ce jour-là. Et alors, hein, vous connaissez l'ambiance des maquis, il y avait de la musique, des gens qui dansaient. Et puis dans une travée, il y avait un poste télé très loin. Il nous fallait presque des jumelles, mais il y avait une voix. Et c'était celle de Philippe. Et c'était
Philippe,
absolument incroyable.
Jamais, il est toujours dans avec nous, Philippe.
C'est ça. Je vous lirai deux petits messages d'auditeurs, parce qu'ils en laissent tellement qu'on essaye, grâce à vous, parce qu'il dit mention spéciale à tous les journalistes qui y participent et qui l'animent. Donc,
moi, je les salue, parce que parfois sur Facebook, je reçois des messages d'auditeurs qui nous contactent parfois personnellement. Donc voilà, j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais je les salue tous, parce qu'ils sont, c'est toujours hyper chaleureux, hyper gentil.
Ouais.
Voilà, donc,
et toujours très touchant, tous ces messages. On va en entendre au cours de cette émission. Mais pour l'instant, eh bien, retournons sur le gazon. Finzel, bien sûr.
Non, je crois que c'est Chambreur.
Non,
voilà.
On n'est pas comme ça.
C'est des chèvres bio ou pas ?
Parce que ce sont nos meilleurs ennemis, comme dit David Finzel, ou nos pires amis. Ceux qui surnomment la Ligue 1 la Farmer League. Vous avez évidemment reconnu nos amis anglais. Est-ce que les soirées récentes leur donnent raison ? Le bilan des clubs français est tragique, on va le dire, en Ligue des Champions. En tout cas, cette semaine, c'est 3 défaites en 3 matchs. Le PSG n'a pas fait mieux que l'OM, et non, hier soir, n'est-ce pas, Soelkedir, en Allemagne, face au RB Leipzig. Une soirée cauchemar, mais qu'on ne peut pas oublier, même si on voulait, n'est-ce pas?
Si les choses ne se voient pas, ce n'est pas que la faute du coach. Et je pense que nous, les joueurs, on peut faire beaucoup mieux aussi. On sait que c'est une saison, elle ne va pas être facile. On a vu le cas aujourd'hui. Il nous manque beaucoup de joueurs. Il ne faut pas chercher des excuses. Il faut qu'on rentre sur le terrain. Une fois qu'on est rentré sur le terrain, il faut qu'on se batte pour gagner. Peu importe comment on va jouer. Si on va jouer bien, si on va jouer mal. Il faut qu'on rentre sur le terrain et on se bat pour gagner.
on se bat pour gagner. Bon, là, ils se sont battus en perdant. Est-ce que, Dominique Cévrac, c'est la faute des joueurs, de ceux qui sont sur la pelouse, parce que c'est vrai qu'il leur en manquait pas mal. Il le dit d'ailleurs, Marquinhos, il leur...
Deuxièmement, j'ai vu une équipe qui sombrait...
Pourtant, certains disent qu'ils jouent plus en équipe dans ce cas-là.
Pendant une demi-heure.
Pendant une demi-heure. Et après, il y a eu un autre problème. Physiquement, ils ont chuté. Donc, vous n'avez pas vos individualités fortes. Vous avez pas de physique, puisque vous avez une demi-heure le pressing, une demi-heure les efforts, la discipline d'effort collective. Tout ça, ça disparaît. Et ben voilà, vous ratez un penalty, donc c'est un peu le tournant du match, parce que vous pouvez mener 2-0. Bon, ben voilà à peu près toutes les causes. On peut rajouter que l'entraîneur ne fait pas un cadeau à Danilo Pereira, sa nouvelle recrue, en le faisant jouer en défense centrale. Parfois, ça arrive. Hein. Mais Marquinhos n'est pas un milieu de terrain, c'est un défenseur central. Et Danilo Pereira n'est pas un défenseur central, c'est un milieu de terrain, c'est comme ça.
C'est comme ça,
le football est Navas n'est pas attaquant. c'est comme ça. Hein. Peut-être qu'il serait très fort, mais oui, il est quand même gardien.
Ce serait dommage.
Philippe Doucet, à qui la faute pour vous ?
Ouais, je rejoins évidemment ce que dit Dominique. Il n'y a jamais une cause unique. On a vu que depuis le début de la saison, de toute façon, de cette drôle de saison, autant l'OM a été ridicule, autant le Paris Saint-Germain n'a pas été ridicule, mais il n'a pas été très bon.
Il y a un sentiment de gâchis, Philippe, parce que j'ai pas le sentiment que Paris avait été battu par une équipe plus forte qu'elle.
Non.
Donc il y a un sentiment de gâchis parce que Paris était bien pendant une demi-heure.
Paris en allant à Leipzig.
Oui, après il faut jouer les matchs, comme dirait un collègue, Grégory Schneider. Et sur le match, plutôt une bonne demi-heure, une très bonne demi-heure de Paris et une super. Encore une fois, il doit y avoir 2-0. Bon, ça peut arriver de rater un pénalty. Et à la fin, ils perdent. Bon, ça peut arriver. Mais je ne vois pas une équipe supérieure qui a battu le Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, il y a un sentiment de gâchis énorme. C'est un peu comme si Paris s'était compliqué tout seul la tâche et fini en plus à 9. C'est-à-dire qu'il a, pour le prochain match...
Dans la non-maîtrise, cette deuxième période du Paris Saint-Germain était très atone. Le Paris Saint-Germain a disparu dans cette deuxième période. Alors peut-être est-ce physique. En ce moment, on voit effectivement des matchs bizarres, où ça manque énormément de rythme, où il y a beaucoup de joueurs fatigués qui avancent pas. On voit pas des bons matchs en ce moment. C'est pas bon. Rien n'est bon.
Même l'adversaire sont pas bons.
De toute la saison. Et là, ils sont en train de le payer. Et donc, ça va être K1-K1, comme ça, tout le temps. Il faut juste, désormais, qu'ils limitent les pots cassés en se qualifiant.
Franck Simon, cette équipe du RB Leipzig, elle a piégé le Paris Saint-Germain aussi parce qu'elle avait une envie de revanche. On se souvient qu'il y a 80 jours, ou 79 à peu près, ils les avaient battus en demi-finale sur le score de 3-0. Ça avait été en plus réglé assez rapidement. Alors on avait Neymar, on avait Mbappé. Là, on avait Nkunku en face qui a marqué contre son ancien club, un peu comme Coman après en finale. Mais est-ce que c'est aussi ça qui a animé en face ou qui a surpris les Parisiens?
Je pense pas que ça soit cet élément-là qui les ait surpris plus qu'un autre, mais il faut comme ça avant. Et je me souviens, en sortant du match, je disais au commentateur, dis donc, celui-là va faire du mal cette saison. On risque de le retrouver avec son petit gabarit, très participatif dans le jeu. Je me disais, ce garçon est intéressant. Forsberg, bon, lui, on le connaissait. Gulaksi, moi qui m'intéresse au poste de gardien, Gulaksi, j'avais aussi noté que ce Hongrois a des qualités.
Et il arrête le pénalty.
Diallo a fait un match catastrophique. Mmh. Il a quand même aidé les Parisiens. Il perd le premier ballon sur le but. Donc voilà, il a fait un match vraiment. À chaque fois qu'il rencontre un club français, il doit somatiser, il doit avoir un petit problème, il a envie de prouver peut-être quelque chose.
C'est incroyable d'ailleurs, cette espèce de syndrome qu'il a. Ou pas Mécano, et pourtant son entraîneur lui maintient sa confiance, quoi. Mais c'est vrai que là, hier, c'était assez flagrant. Des images que j'ai vues, puisque j'étais en train de suivre un autre match, mais ce que j'ai vu était assez édifiant, quoi.
Vous avez vu l'essentiel, Franck.
Je crois, Dominique.
Alors, beaucoup de critiques, évidemment, se tournent aussi vers l'entraîneur, puisqu'on maintenant on a parlé des joueurs, ceux qui sont sur le prêt, mais selon votre journal, en plus, Dominique, et les informations de vous et de votre service, il y aurait une mauvaise ambiance, pas vraiment des bonnes relations entre Tourelle et les joueurs. Est-ce que on peut se poser la question ? Allez, les dirigeants décident d'enlever Thomas Tourelle. Est-ce que changer un entraîneur serait une solution ? Parce qu'on a vraiment l'impression que le PSG est finalement une machine à broyer les entraîneurs. On a eu Ancelotti, on a eu Laurent Blanc, on a eu Emery, j'en oublie peut-être, et maintenant maintenant on a qui arrive avec une certaine aura, et on pense à Tuchel qui arrive, qui avait pas mal réussi dans le championnat allemand et tout, et là on se retrouve avec quelqu'un qui est passé,
qui est libre depuis son départ de Tottenham. Donc si vous sentez que Pochettino, il y a aussi le banc de Manchester United qui chauffe là, qui chauffe et qui se refroidit pour Solskjaer, si
et, vous et sent... qui est intéressé par, voilà, Pochettino.
Donc si vous sentez que Pochettino va signer à Manchester United et que vous voulez absolument Pochettino, bon bah c'est là que vous changez, parce qu'après forcément vous avez moins de choix. C'est virer Tourelle et puis prendre personne. Ça, à un moment donné, quand on chez le tir avec la clé entre les doigts, on s'est retrouvé entre guillemets avec Laurent Blanc. C'était pas du tout leur premier choix. Il se trouve que Laurent Blanc pendant 3 ans, il a fait un travail formidable, que c'est la dernière époque où le PSG a super bien joué, mais c'était pas leur choix initial. Donc si virer Tourelle, si c'est pour mettre Christophe Galtier, non. Déjà il y a Lille et puis c'est pas l'idée du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Mais pour moi, ils ont pas l'argent pour le lycée. Et puis que les entraîneurs et les joueurs s'entendent pas, c'est l'histoire de quand les résultats sont pas là, quand ça joue pas bien, c'est la vieille histoire du football. Hein.
Philippe Doucet.
Oui, l'autre raison classique pour virer un entraîneur, c'est quand on estime qu'il a perdu le vestiaire.
Oui.
S'il a perdu le vestiaire, effectivement.
Est-ce qu'il l'a perdu?
J'en sais
Est-ce
rien.
Que vous avez l'impression?
J'en sais rien. J'étais pas à l'entraînement hier. J'étais un peu blessé.
Non, mais la prestation.
J'étais un peu blessé. J'ai pas fait l'entraînement hier.
Mais
on n'est pas sur place. C'est très difficile.
Ah oui,
la prestation.
Ça sent pas pendant
non.
le match?
Oui, parfois ça s'est senti, mais c'est vraiment des cas extrêmes. Quand une équipe lâche complètement un entraîneur, c'est déjà arrivé.
Dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est arrivé.
C'est déjà arrivé, notamment
on se rappelle, avec Philippe Bergeron.
Avec Philippe Bergeron, bon, ça c'est en 2000, ça remonte un peu. Bon, c'est pas hier. Là, c'était flagrant, mais c'est assez rare de savoir. Sur le match d'hier, vous pouvez pas dire les joueurs ont lâché. Je justifie pas. Moi, je suis pas pour critiquer les entraîneurs, mais là vraiment, on voit bien que le mec, il est pas fait pour ce poste-là. Ça se voit, c'est clair et net. Bon, voilà. Bon, c'est peut-être une erreur, mais c'est
lui
comme
même
ça.
Dit, hein. Le joueur concerné
le dit lui-même. Mais en dehors de ça, on n'a pas vu une équipe qui lâchait Tourelle. Donc les dirigeants pensent qu'il n'a plus le vestiaire, effectivement, c'est une possibilité de le changer. Sinon, Dominique l'a rappelé, il suffit qu'il batte Leipzig au retour, ce qui est quand même pas totalement invraisemblable. Ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes du groupe, ils sont déjà en position de se qualifier. Donc franchement, paniquer. Oui, en plus, ils sont même premiers peut-être.
Franck Simon, est-ce que dans ces cas-là, c'est vrai que l'entraîneur est pas...
On insiste parce que c'est la Ligue des Champions et que pour le coup, il y a 2 défaites en 3 matchs, en 3 journées. Mais il y a aussi quelques accros en championnat, donc c'est quand même pas jojo. Philippe l'a rappelé d'emblée, c'est pas une équipe qui se balade, c'est une équipe qui manque singulièrement de rythme. J'ai suivi quelques matchs, j'avais l'impression d'avoir pris un somnifère, quoi. En fait, j'avais du mal à les suivre, ça se réveille au moment où toi tu t'endors. Et du coup, je ne reconnais pas ce Paris Saint-Germain qui a pu par moment nous séduire. Et du coup, effectivement, le fusible, et c'est tradition dans le football mondial, c'est l'entraîneur. Et on le voit bien, vous disiez, il est sur la défensive, il est irascible, c'est totalement ça.
Il est fracassé, vilipendé, désossé dans les journaux.
C'est beaucoup plus violent d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Ouais. Et l'Espagne et l'Angleterre aussi, ça peut être d'une violence inouïe. Donc les médias français sont très gentils à côté.
Et Tourelle a été d'une maladresse énorme en faisant une déclaration en Allemagne. À la veille du match, ou peut-être avant, elle était peut-être enregistrée, j'en sais rien.
C'était Mbaba,
incroyable.
Qui s'échappe comme ça et qui part. Les entrées, on a vu, de Cavani, de Pogba, n'ont pas changé grand-chose.
Non, c'était un mauvais Manchester, comme assez régulièrement.
Ouais. Eux aussi, ils ont des hauts et des bas.
Alors, ils ont plus de bas que de hauts, d'ailleurs, globalement. Ils ont plus, c'est le défaut, pour l'instant, parce que...
Après, il ne faut pas oublier, il y a eu le restart en Angleterre, et ils sont en train d'enchaîner 2 saisons, c'est-à-dire 10 matchs de la saison précédente et une nouvelle saison, donc ils sont en train d'enchaîner 48 journées quasiment d'affilée. C'est pas facile, quoi. Mais en revanche, la couverture, ça c'est un des premiers trucs qu'on apprend au football, c'est les gammes du football au sein des centres de formation, vous laissez une couverture.
Quelques mois en arrière en Turquie, sous la conduite d'Okan Buruk, l'actuel entraîneur.
Et de Erdogan.
Et sous la présidence
éclairée.
Non, il n'est pas président pour le coup. Peut-être
non, c'est son neveu.
Ouais. C'est son neveu.
Oui, c'est un peu tout le monde. Mais cette équipe de Başakşehir, je rappelle, qui n'a pas de public, qui n'a pas de supporters, qui n'a rien, qui a recruté beaucoup de joueurs en fait sur le déclin ou des futurs vétérans. Souvenez-vous, il y a l'été dernier, ils avaient joué en quart de finale de l'autre compétition, ils avaient pris une claque contre Copenhague, tout le monde riait en disant ces gens-là vont aller en Ligue des Champions.
Maximum.
Ouais, ils sont déjà à 3.
Ouais. Un club qui était en deuxième division il y a 3 ans.
Ouais.
Allez, on change de club français, mais on va aussi vers une défaite.
Radio Foot International, à 10 ans, sur RFI.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Annie. Moi, je m'appelle Issoam, depuis Vouni, Bambao, Comores, voilà, les îles de la Lune à Comores. Je suis fan de Radio Foot International depuis 2013, ça fait déjà 7 ans. Fan.
À l'émission, bien sûr, bien de choses. Je ne suis pas, comment je vais dire ça, une auditrice de la décennie. C'est une émission qui me tient vraiment à cœur. C'est devenu comme mon café maintenant, chaque jour, je ne peux rester sans l'écouter. En fait, je rêve maintenant de devenir cette Annie Gasnier de la Guinée. C'est ce que je me dis chaque jour quand j'écoute l'émission. Je me dis, bah, pourquoi ne pas devenir cette Annie Gasnier de la Guinée? C'est mon rêve, bien sûr. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire encore une fois de plus. Merci beaucoup à vous.
10 étoiles sur le maillot. Radio Foot International.
Saï, ouais. Hein, du Congo Brazza, justement. Ouais. Et là-bas, une consoeur journaliste sportive qui disait des fois, on m'appelle la Annie Gasnier du Congo Brazza. Donc,
c'est pas rien.
Voilà. Hein,
c'est pas rien.
N'est-ce pas?
C'est
on gagne ses galons. Oui. Oh, mais je veux bien faire école. Moi, vous pouvez me copier, vous pouvez faire pareil dans votre pays.
Parfois, les bras bougent. J'ai l'impression que la décision d'aujourd'hui suit les règles de la Champions. Si j'étais le coach de Rennes, je ne serais pas content. Mais ce sont les règles en compétition européenne.
Ce sont les règles, en
comment
tout
ça,
cas. L'entraîneur, on va en parler de cette règle. Parce que l'entraîneur, Julien Stéphan, alors s'il estime que l'exclusion tue le match, le président Nicolas Olvek, le breton, eh bien, il va même un peu plus loin que ça.
Ah. Ce soir, je suis très fier des joueurs, très fier du coach. Vraiment, ils ont joué comme le coach, comme Julien l'a prévu qu'on joue. La deuxième mi-temps montre aussi que les joueurs ont mis tout ce qu'ils avaient. Jusqu'à la fin, on était dangereux. Non, encore une fois, c'est l'apprentissage qui est dur. On est certainement arbitré comme le petit poussé, comme le petit nouveau. Et ça, c'est difficile d'accepter. Le sommeil va être dur à trouver ce soir.
Ouais, sommeil dur à trouver, sans doute le réveil un peu dur aussi après ce 3-0. Reprenons, Philippe, cette règle de la main dans la surface, qui est VAR ou pas.
Non, mais ce qui s'est passé c'est depuis 2 ans, le board, mais bon, le board c'est la FIFA, hein, disons les choses clairement.
Oui,
la FIFA essaye de redéfinir les règles, et plus on va loin dans le VAR, et plus on essaie de le redéfinir, parce qu'on s'aperçoit qu'une fois qu'on a vu Rennes, ça aurait été sûrement plus dur à siffler contre Chelsea, mais c'est même plus le problème. On a affaire à des arbitres qui sont déboussolés, qui sont devant, alors qu'ils se disent, bon, alors, on m'a expliqué que la balle touchait la cuisse, comme elle touche la cuisse et qu'elle va ensuite sur la main, donc il n'y a pas pénalty. Ah oui, mais on m'a dit aussi que si la main est au-dessus du niveau de l'épaule, il y a pénalty. Ah. Et puis, si elle est détachée du corps, il y a pénalty. Donc, en fait, l'arbitre, il est devant un espèce de truc qui comprend rien. Ça fait 2 ans seulement que ça a changé, les règles sur les mains. Tout le monde est complètement paumé. Et complexité invraisemblable. Pour moi, la logique foot, elle est complètement bafouée. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty de Zuma non plus. Le premier, bon, ok, très bien. Tout ça, il faut pas siffler. On ne sifflait jamais ce genre de choses. Il fallait que l'arbitre soit totalement sûr. Et on se portait très, très bien. Pas merci la VAR pour le coup, mais c'est pas de la faute de la VAR, c'est de la faute de la complication du cerveau humain liée à la VAR.
Franck Simon, Rennes n'a pas démérité pour autant. On fait un bilan terrible des clubs français, mais Rennes, finalement, hier soir, a eu du cœur à l'ouvrage.
Au moins pendant une première période. Voilà, c'est une équipe dont on sait qu'elle est joueuse. Malheureusement, tu vois, Philippe, je pense que des clubs comme ça qui arrivent en Ligue des Champions, ils n'auront pas le petit plus. Toi, tu dis effectivement, ça aurait été Chelsea, ça aurait été plus compliqué. Je pense qu'un
non,
club
ils n'ont
comme...
pas le petit plus, mais il faut pas être parano dans le sens où l'arbitrage a changé. Avant, il y
clairement.
Avait pas,
non, mais t'as raison.
Avant, il y avait aucun. Une certitude que la Juve, le Real, etc.
étaient protégés, donc voilà.
Maintenant, les arbitres, ils ont besoin d'une note. Ils ont besoin d'une note et ils savent qu'avec le VAR,
c'est un championnat des arbitres, faut le savoir.
Il y a raison, Philippe, ça dépiche Paris et c'est chez Sirène. Et je vois Kimpembe faire un pénalty avec une main, il prend pas de jaune, pas d'avertissement. Et je vois Dalbert qui provoque un pénalty par une main et il prend un avertissement. Et donc,
non, il y a pas de logique.
Je ne comprends pas pourquoi. Et c'est la même compétition. c'est la même faute de main. Si on considère qu'il y a faute de main, mais pour moi, dans un cas, il y a pénalty qui m'aimait, dans l'autre cas, il n'y avait pas pénalty, mais bon, admettons qu'il y ait chaque fois pénalty. Pourquoi, s'il n'y a pas la même sanction? Parce que Kimpembe, il aurait reçu un deuxième avertissement à ce moment-là. Bon, finalement, il a fini par recevoir, mais plus tard. Donc, ça change aussi, ça fausse tout. Eh oui. Chelsea est plus fort que Rennes, tout le monde l'a. Et après, voilà. Après, on se situe par l'altitude.
C'est le Parisien qui parle.
Non, mais Rennes, pour le coup de l'apprentissage, mais sortons de l'arbitrage. Pour le coup de l'apprentissage, Rennes apprend, clairement.
Oui.
C'est-à-dire que c'est le premier match de Krasnodar, on le prend dans un an. Rennes, s'ils sont toujours en Ligue des Champions, Rennes battra Krasnodar. Fera mieux à Séville, sans peut-être gagner. Ils perdront peut-être quand même. Chelsea, ils perdront peut-être quand même. Mais d'une manière différente. Il est clair que l'équipe apprend, parce que c'est une vraie bonne équipe.
Hein. Et
une vraie
bonne équipe. Souviens-toi la Ligue Europa.
Souviens-toi
la Ligue Europa l'an dernier, où la saison dernière, ils étaient...
Mais l'année d'avant était très bonne.
C'est une compétition où la permanence est très importante. Le Final 8, il y avait...
Mais la seule constante quand même sur l'arbitrage, c'est que sur les clubs français, on a eu 2 pénaltys par match. Donc la FIFA veut qu'il y ait des buts dans le foot. Le pari est gagné. Je pense que bientôt tous les matchs feront 4-3. On battra tous les records. Il y aura des buteurs à 700 buts, 800 buts, 900 buts. Mais c'est plus du foot. C'est dommage. Mais c'est plus du foot. C'est pas grave. Bah, ça ne lui dérange pas du tout.
Mais s'il aime bien les pénalties, parce qu'en ce moment,
il n'y a que cette manière de marquer. Je crois qu'il en a marqué contre moi.
Il sait faire, il paraît.
Oui, il a marqué d'autres buts.
C'était une typique. Franck, je suis sûr que vous avez aimé ce tout jeune gardien qui a été lancé hier soir du côté du Dynamo de Kiev. On l'a mis là.
Je vais vous dire, Annie, j'ai pas vu ça.
Alors vous irez regarder. Mais
il faut 18 voir, ans. Il faut voir son image. Hein. Il faut voir sa bouille.
Ouais.
J'ai cru. Et en c'est tout quoi cas, le troisième, quatrième gardien?
Troisième, je crois. Troisième, ouais. Et il a réussi à arrêter un ballon dans une lucarne. Là, c'était absolument spectaculaire.
Il a fait un magnifique sur la coupe de Messi.
Vous allez regarder tout ça.
Exactement.
Vous allez regarder tout ça.
Non, mais Alejandro, en plus, avait l'œil sur ce match. Allez, on continue. On va parler un peu de ce continent africain qu'on aime tant.
Radio Foot International souffle ses 10 bougies sur RFI.
Bonjour, c'est Mam Diara Diouf depuis Dakar, fidèle auditrice de Radio Foot International. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Radio Foot International et mention spéciale à qui? À Monsieur Abibé, s'il vous plaît. Bon
anniversaire. Et surtout, moi, je commence à suivre Radio Foot International depuis 2014 lors de la Coupe du Monde. Pour la première fois, c'était lors du match Ghana-Allemagne. Ce match-là qui s'est terminé par 2 buts partout. C'était fou et dingue. Et puis, je compte vous suivre jusqu'en 2015 lors de la CAN de la Guinée équatoriale où mon équipe, les Léopards, a fini 3e. Et surtout, je continue toujours à vous suivre partout où je suis, dans le train, même quand je dors. Je me dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis Radio Foot International et surtout les cafés des sports. J'espère un jour être dans le Vobo Studio, voir surtout les héros dans l'ombre, Laurent Salerno et David Finzel. Et surtout en particulier vous, Madame Annie. Et surtout, j'en profite aussi pour saluer Gilles Verdez. En attendant, continuez à bosser dur, car l'Afrique et la RDC en particulier vous suivent.
Simingi.
Voilà. En tout cas, on lui dit merci.
Choukrani.
RFI, on n'a pas besoin de payer de gens au marketing pour nous faire de si beaux messages et une si belle promotion.
Ça vaut le coup, il faudrait que ça dure tout le temps.
De l'émission. Ben, ça dure la semaine déjà et c'est pas mal et on en passe des messages. Allez, une finale 100% égyptienne qui se disputera à Alexandrie le 27 novembre prochain. Le Zamalek, Franck Simon, s'est qualifié hier soir. C'était aux dépens du Raja Casablanca. Vainqueur, ils avaient déjà été vainqueurs à l'aller, hein, le Zamalek. C'était 1-0 à l'aller et là c'était 2-1, si je me trompe pas.
3-1.
3-1, pardon. Ce match retour, c'est peut-être pas forcément la logique qui a été respectée.
De s'asseoir derrière, d'attendre, c'était pas une très bonne idée, parce que le Raja, le match avait été reporté 2 fois notamment, qu'il y a eu de très nombreux cas de Covid.
C'est ça,
ils manquaient
aussi,
de rythme, ils étaient sur la tension nerveuse, ils manquaient d'entraînement et ça se voyait. Ils ont tout donné pendant 1 heure, ils ont marqué, et puis ils se sont relâchés 1 fois, égalisation.
Dans toute fin de match, en fait.
Non, égalisation à la 61e par Ferjani Sassi, le Tunisien. Et puis, il craque, en fait, physiquement. Il s'effondre après 4 changements, parce que on a le droit d'aller jusqu'à 5. Il craque dans les toutes dernières, de toute façon, un but partout, ils étaient éliminés. Mais ils ont continué d'essayer de marquer ce 2e but pour essayer de passer à l'extérieur. Et ils se sont, en fait, écroulés. L'avant-centre du Zamalek.
Puisque je crois qu'il y avait des cas de Covid et que, du coup, ça, c'était des Égyptiens, apparemment, au VAR.
Curieusement, c'est la première fois.
Expliquer plein de choses.
Peut-être, mais ce qui est curieux pour avoir fait les autres
non,
matchs,
c'est original.
C'est que à chaque fois quand il y a eu des cas justement d'utilisation de la vidéo assistance, on avait une vue du car, on voyait les arbitres, donc on voyait. Et là, À aucun moment, on a eu un plan des arbitres, curieusement.
Ah. Et Philippe, du coup, on se retrouve avec une finale chevalier blanc contre chevalier rouge, c'est-à-dire
Diable rouge,
Zamalek.
Diable, Diable rouge.
Oui, je crois que c'est unique.
Hein, Al Ahly, on connaît ce club extrêmement récompensé, et puis Zamalek.
C'est un cas unique, apparemment. Enfin, Franck va me contredire.
Ils ont fait une super.
Les dernières années sont au-dessus, clairement. Là, sur les demi-finales, aucun doute, il y a eu un très net avantage, puisque sauf erreur, les Égyptiens ont gagné les quatre matchs.
C'est ça.
Aller-retour. Donc là, il n'y a pas de doute. Par contre, évidemment, tout ça est chamboulé par le Covid, donc on ne sait pas très bien ce qui serait passé si ça avait pu se disputer il y a six mois, comme ça aurait dû être le cas. Donc c'est un peu difficile d'en tirer des conclusions, mais en tout cas, pour la conclusion actuelle, oui, les Égyptiens ont été au-dessus et ont gagné logiquement, notamment à Al-Hali, là c'était très net. C'est un peu moins net effectivement pour le Zamalek, mais malgré tout, ce n'est pas contestable. Ouais.
Restons en Afrique, juste pour un petit commentaire de votre part, avec les institutions, la CAF, pour un second mandat à la présidence que je me présente, je vois que beaucoup me demandent les détails du bilan et donc ils les publient. La date limite des dépôts de candidature, ça sera le jeudi 12 novembre, pour l'instant et il n'y a que lui, mais il y aurait peut-être des embûches sur sa route. Philippe,
il semblerait qu'effectivement la commission d'éthique de la FIFA est opportunément, parce que c'est la coïncidence des dates est assez suspecte, tout d'un coup la FIFA se précipite, et quand je dis qu'elle se précipite, c'est que d'après mes sources, le 9 novembre la commission d'éthique entendrait monsieur Hamad en visio. Dans le pas, mais en tout cas, là, il semblerait, et bon, d'après mes sources, encore une fois, mais ça n'indique pas que le verdict soit établi, mais le risque qu'il soit suspendu pour 3 mois paraît assez important, compte tenu d'un dossier qui est constitué. Alors l'affaire
sur quoi, sur Tactical Steel,
l'affaire oui. Tactical Steel,
pour laquelle il avait été entendu par la police.
La Balazio, le 9 novembre, avec le risque qu'il soit suspendu 3 mois, qui est l'usage. Hein. Je veux dire, si le dossier est fondé, il serait suspendu 3 mois, ce qui pourrait évidemment remettre en cause, c'est pour le moins qu'on puisse dire, c'est que ça remettre en cause sa candidature, bien sûr.
C'est rare que la FIFA empêche les gens de se présenter quand même. C'est très rare.
Ah ouais. Ouais. Il avait été très soutenu par monsieur Infantino, mais on a l'impression.
Déjà, bon anniversaire à vous et continuez comme ça, parce que voilà, ça permet aux jeunes ou certains joueurs d'Afrique d'être connus, d'être vus. Et moi, j'attends juste qu'il y aura une grande fête et qu'on sera invité, John et moi, pour manger le gâteau.
Ah non, Philippe, vous revenez la semaine prochaine, avec vos beaux maillots, parce que tout le monde a des beaux maillots ici pour célébrer cet anniversaire. Merci à Victor Hull qui était à la réalisation aujourd'hui. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et on vous dit à demain, rendez-vous pour le Café des Sports.
Ah, famous.
Envie d'améliorer la santé de tous ?
RFI et France 24 vous proposent de participer à la 5e édition du grand concours Challenge App Afrique.
Si vous êtes porteur d'un projet d'application ou de solution numérique pour lutter contre les épidémies en Afrique, participez à la compétition sur le site apafrique.rfi.fr.
apafrique.rfi.fr.
Vous avez jusqu'au 14 novembre.
L'Afrique à travers celles et ceux qui la vivent, qui la construisent et qui la font bouger. De décembre 2020 à juillet 2021, vivez la saison Africa 2020 à travers plus de 200 événements partout en France. Retrouvez toute la programmation sur saisonafrica2020.com. Africa 2020 est mise en œuvre par l'Institut français en partenariat avec France Média Monde.
Bonjour et bienvenue, 17h TU, 18h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, le suspense continue. Du coronavirus, son ravageur en Europe. L'OMS s'inquiète d'une explosion des cas. Dans ce journal également du tennis, le jeune français Hugo Humbert est en quart de finale du Masters 1000 de Paris. Et le point bourse avec nos confrères d'Investir, la hausse continue à Paris, plus 1,24% en clôture. Deux jours après le scrutin, les Américains ne savent toujours pas qui sera le 46e président des États-Unis. Le sort de la présidentielle est suspendu à quelques États-clés où le décompte des voix est toujours en cours. Joe Biden continue de faire la course en tête, mais cette course est trop serrée pour qu'un vainqueur soit désigné. Anne Corpé, bonsoir. Vous êtes en direct de Washington. Joe Biden